C'était la nuit et je n'avais pas peur. C'était le jour et j'étais un guerrier, un enfant oublieux des terreurs anciennes. Certain d'aller si loin, si loin, si loin que je disparaîtrais de la vue de tous dans des terres inconnues. Que je voyais en moi, les années ont passé, le monde a rétréci et le temps s'est joué. Des exploits inachevés, des océans vaincus, des féroces combats perdus bien plus souvent que je n'avais prévu au fond de mon grenier. Quand je lisais le soir mon dessin héroïque dans des livres d'images, j'ai ramené les voiles, ralenti la cadence, changé de cap souvent. Me suis noyé encore, 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 au plus profond souvent. J'ai ouvert tant de livres, vécu avec les hommes, chargé comme des mules, des chagrins de toujours, des joies libres comme l'air. Et un matin, enfin, 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 je me réveille enfin. En moi, les autres sont entrés, découvert le grenier et mes livres précieux. Cela ne pèse plus, le monde est plus léger. Le guerrier a vieilli, son armure a rouillé, et le visage nu, il va, il va, il va sur des sentiers nouveaux, pas à pas, vers la grande forêt. C'est ici que je reprends l'histoire de l'ogre. Je vais tenter de la raconter comme celle de toute une génération qui a eu le temps de se perdre dans l'ennui, hein, l'ennui, et l'exploration, en attendant la fin du monde qui ne venait jamais. Peut-être c'est pour bientôt, il paraît. Semble-t-il, ça approche. Comme tous les ans, c'est pour bientôt. Il ne pense pas que l'ogre, je ne pense pas, je confonds déjà le sujet, le personnage, c'est le même en fait. Hein. Je ne pense pas que l'ogre ait eu réellement peur. Il a été blessé, bien sûr, sa lie abîmée comme beaucoup d'enfants, mais ça ne l'inquiétait pas particulièrement, c'était comme ça. Ça ne l'empêchait pas de mourir sur place, c'était comme ça et on n'en parlait plus. Entre deux tours de vis, deux serrements d'écrou, il s'évadait dans ce qu'il pouvait, dans ce qu'il avait à sa portée. Parfois des livres, souvent rien, le vide. Rester fixe, regarder devant soi, respirer à peine et laisser grandir toutes ces étranges histoires qui l'étouffaient. Pour suspendre le temps et se sentir à l'abri des vacarmes, il ne fallait pas bouger d'un millimètre, pas un. retenir sa respiration, la contrôler lentement, très lentement, qu'on ne l'entende plus, aucun bruit dans les oreilles, plus rien dans la tête, le vide, l'immobilité, le souffle tendu en apnée, et ça dévalait alors comme les chevaux du Grand Canyon. Il aimait entrer dans cette bulle comme dans une caverne où il pouvait faire apparaître de formidables monstres qu'il maîtrisait pas à pas. La ménagerie s'est agrandie au fil du temps et la caverne a rétréci. Il s'est longtemps amusé de se face à face. Il se couchait, regardait le plafond, retenait sa respiration un bref instant et d'un coup il se reconnectait. Tout émergeait, remontait jusqu'à sa tête, ses jambes, ses bras, sa gorge. Il était transporté, le corps léger, libre, dans le temps et l'espace de son choix. Il plaçait ses personnages, construits à partir d'un mot, d'une couleur, entrevue la veille. Un chien aboyait, des enfants jouaient dans la rue, plus loin, et il en faisait matière. Tout s'imbriquait, il laissait faire. Ça s'associait librement devant ses yeux. Il n'endormait pas souvent. Mais c'était comme ça, ça se faisait. Le matin, tout était prêt. Il écrivait dans son cahier bleu ses histoires et ses questions sans réponse. Des images ont persisté. Des phrases, toujours les mêmes, sont revenues, lui grignotaient l'oreille. Il s'éveillait en nage, calmait ses protagonistes, allait faire pipi. Et quand ils se remettaient au lit, ils étaient dociles, mais entr'ouverts, comme des mains de vieux sur la table. Quand il a vieilli, il a écrit des morceaux de cette histoire ancienne. Il a essayé de ne pas oublier la rage qui était en lui. Et pourquoi cette rage ? Et aussi cette façon de ne pas y croire et de ne pas y croire. Il pouvait aimer, oui, aimer, de plus en plus fort, d'année en année, mais il aimait de plus en plus intensément, se laisser emporter par cette nécessité d'aimer, plus que d'être aimé, probablement, c'était plus sûr. Les adultes, les journaux, la télévision ne parlaient que de ça. D'invasion, de danger, de la bombe. Mes parents disaient qu'ils avaient peur pour moi, mais je ne les croyais pas. Je voyais que c'était pour eux, cette peur, d'abord. Qu'ils l'avaient fabriquée pour se protéger du monde, ou quelque chose comme ça, pour s'obliger à supporter et à se distraire. J'ai donc aujourd'hui repris les textes laissés par l'ogre et les y relus. Je vais tenter ici de mettre un peu d'ordre dans tout ce qu'il a griffonné avant, pendant et après son aventure. J'ai souvent le sentiment de glisser vers le grand lieu de la disparition et les textes que je laisse ici et là, à la disposition des lecteurs, sont probablement une façon d'enfoncer mes ongles dans la paroi et de ralentir la glissade finale. L'ogre a appris, lors de son grand voyage, tout ce qu'il devait connaître pour survivre à l'aigreur, aux tromperies, aux abandons et aux coups bas. Il a appris à contrer ce à quoi est confronté chacun. Il a glané dans ses épreuves de la joie une sorte de légèreté qui le corsetait quand sa colère fulminait. Ses colères naissaient de ce sentiment d'injustice et de mensonge qu'il avait vite repéré dans le monde des adultes. Il les dévoilait quel que soit leur déguisement emphase et litote. Une parole, une intonation, un regard, et il débusquait le mépris, entrevoyait la veulerie à l'instant. Il était encore tout petit, l'ogre, mais il grandirait vite, trop vite. Dans sa famille, on disait de lui, comme il grandit vite, comme il est grand. Il quitterait sa taille d'enfant. Il allait perdre ce qu'il aimait le plus. Regarder le monde de bas en haut, en admiration devant le sentiment et le scintillement du ciel. Je sais, je me souviens encore aujourd'hui de ce qui a fabriqué l'ogre. L'ogre sait ce qu'il fait. Il croit encore, il n'est pas marqué par l'usage et le poids du passé. Il peut se lancer, aller droit, marcher, envisager. L'ogre est en train de naître. Il en avait entendu des récits, des histoires de guerre, de jaune, de rouge, qui allaient débarquer et nous enfermer ou nous tuer. Et la bombe nous protégerait, mais tout le monde serait frappé. Alors on pensait à cette terrible seconde, on se voyait dans la lumière finale et on serrait les mains. Les parents, la télévision, la radio, les journaux, tout le monde en parlait, même à l'école. Tout le monde. On faisait des provisions. Je vais vous le dire, c'était pas comme vous le dites, pas entièrement. C'était mieux, comment on dit ? Mieux que mal, pire. C'est ça. Une autre fois, il parlait des Russes, de Sébastopol, de Cuba, du siège de Stalingrad, de la retraite de Moscou, d'Auschwitz, de Brendong, d'Hiroshima, de la Chine, de la Corée. Des millions de morts.
Après cela, Khrouchtchev semble se calmer un peu. Puis conclut son discours sur une note menaçante. Vous savez, je ne me sens pas le bienvenu.
La folie de la bombe était là. La folie de la bombe était là. Une bombe à soi. La folie de la bombe. Une bombe pour soi, une bombe pour tout le monde. C'était la folie de la bombe. C'était simple, propre. L'ogre prit alors la décision, sa décision, elle devait partir, vivre, avant le grand blanc final. Il partira donc. Et quittera sa maison. Il prendra un sac avec quelques affaires et marchera vers la forêt. C'est dans la forêt que les monstres trouvent aussi leur place. Et il avait appris à les dompter. Et il ne lui restait que ce refuge pour supporter la vie qu'allait être la sienne. Un enfant trop grand dans un monde trop petit. Il avait découvert le minuscule et le médiocre dans les parades des adultes. Dans les façons de ne pas être présent et toujours ailleurs. À faire des choses qu'il n'aimait pas faire. Il allait devenir un faiseur, comme les grands. Une sorte de pantin maladroit, avec déjà sa déjà grosse voix et son corps encombrant. On lui disait, tu seras ceci, tu seras cela, et il détestait. Il détestait tout autant ceci que cela. Mais il était encore petit. Et la peur prenait toute la place en lui. Rien ne pourrait le protéger. Trop d'amour,
était nécessaire. Et il n'a pas trouvé autour de lui ce qu'il espérait recevoir. Les enfants, petits et grands, rêvent de mourir souvent. Souvent, souvent. Déjà frappés par le grand consentement auquel on leur demande d'adhérer. Le soir, la nuit, l'ogre lit. N'importe quoi au début, puis de vrais livres qu'il faut quitter un soir. Les bruits reviennent alors, tous ces bruits du dehors, un autre livre. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où il est parti. La forêt est là, frémissante, au bord du chemin, et l'ogre la regarde. Il lui fait face et sait qu'il va devoir faire quelques pas encore pour quitter ce qu'il connaît. Ses pas vont l'affranchir de ses anciennes peurs. Il est là juste devant le silence, puissant de la forêt, presque vacillant, au bord de la route. La maison de maman est éteinte maintenant, et on ne voit plus que des draps qui flottent dans le jardin, tout petits et si lointains qu'on dirait des papillons jaunes et rouges sur un arbre bleu.
L'ogre se retourne.
L'ogre se retourne et regarde longuement ce qu'il a quitté et rêve d'abandonner pour toujours. Les toits des maisons, les cheminées, les murs, les grilles, les portes, les allées. Il n'aime pas cela. Il ne sait pas encore que les herbes sauvages, les lieux de solitude, les endroits où il pourra grandir libre sont rares, si rares. Brisé de l'intérieur, tordu de consentement, c'est ainsi que les ogres sont tolérés là-bas, jusqu'à ce qu'ils vieillissent et finissent édentés, sans appétit ni fureur. L'ogre trouve vite son chemin entre les fougères et les buissons agiles. Il marche en comptant ses pas. Longtemps, il se trompe, il recommence, il hésite. Il est très excité. Il est là sur le sol, il voudrait pénétrer le sol de bave et de moisissure. Il renifle les feuilles mortes amalgamées dans des boues noires et piquantes. L'ogre se mouche entre ses doigts et nettoie sa main dans l'herbe haute. L'ogre sommeille. Il a rejoint des festins d'aventure et attend sa mère. Il l'entend au loin l'appeler pour le goûter, mais l'ogre s'est endormi. Il ne pense plus à rien dans sa cabane où il digère son premier repas de biscuits emporté dans son sac de secours. L'ogre se voit grand et terrifiant. L'ogre a des fins d'ogre, mais les jambes trop courtes pour manger les nuages de mousse et de meringue en défilé sur le prêt. L'ogre dort en reniflant souvent, emmêlé dans les poils des tétins.
Des fourmis lui entrent dans la culotte. Et l'ogre crie, l'ogre se fâche, l'ogre tempête, l'ogre se gratte aux endroits les plus tendres, mais l'ogre a le courage de regarder ses pleurs. Et il les retarde comme ça. C'est une vertu qui demeure encore chez les ogres. Dans sa cabane, l'ogre prend toute la place. Sa tête, son corps, ses bras, ses jambes, tout y est. Et ce qui est au-dessus de lui, foie, rein, cœur, poumon, rate, intestin, et des grands trous parfois qu'il va devoir remplir tout le reste de sa vie.
Il ouvre les yeux avec délicatesse, parce que les yeux des ogres sont délicats et fragiles. Il distingue dans l'ombre de la cabane sa belle gourde remplie de lait, et son coutelas ouvert. C'est son canif qu'il appelle coutelas,
car chez les ogres, c'est un mot plus lourd pour découper toutes ces choses qu'il décide de dévorer. Et alors l'ogre a faim, encore plus qu'à la phrase précédente, et il se dit que la pomme de terre qu'il a prise dans la réserve de maman sera parfaite pour un ogre affamé.
Des inouks. Les inouks. Au loin pleurent, dans les zones des hommes. Et l'ogre se dit qu'il ne doit pas se rapprocher trop près, qu'on pourrait le surprendre et le faire prisonnier. Alors il s'assied contre le tronc d'un arbre et réfléchit. Il a faim et froid, un peu peur, mais le souvenir de la nuit le tient droit. L'ogre regarde le monde devant lui. Il est grand. Par quoi commencer? Par où aller dans la suite de cette histoire? Rentrer chez sa mère, agrandir la cabane, chercher de la nourriture? Il s'assied et réfléchit longuement, tellement longuement que la lumière a changé maintenant et qu'elle ruisselle sur lui dans la douceur du matin. Il est heureux, il le sait, et il comprend déjà que c'est pour cela qu'il restera dans la cabane. Il n'a jamais été aussi heureux, aussi seul et aussi heureux. Dans la profondeur de la forêt, il voudrait vivre toujours. Il acceptera un jour d'aller à nouveau à la lisière de la forêt, et peut-être plus loin, mais c'est trop tôt aujourd'hui. Il part vers l'ouest, comme il l'a entendu souvent. Vers l'ouest, toujours, toujours à l'ouest, toujours à l'ouest. Il ira dans une autre direction plus tard, s'il ne trouve rien, mais en attendant, en route pour l'ouest. Il marche pendant 2 heures. Il croit que c'est 2 heures. Il n'en sait rien, mais il le sent. Ça doit être 2 heures. Ça sonne bien 2 heures. Et ça permet de faire une pause. Le sol est humide et le ciel est froid. L'ogre regarde la tribu des arbres dans la lumière qui tombe là, au cœur des buissons et s'émiette sur le sol. Un craquement, il relève la tête lentement et face à lui, le tronc large comme un mammouth, le géant se détend dans des soupirs du vent et déplie ses branches jusqu'aux nuages. L'ogre frissonne, il sait qu'il est grand, qu'il est là, qu'il est devant le Seigneur des lieux. Il garde les yeux grands ouverts devant sa majesté dressée. Il n'a pas peur, il se sent chez lui, il écoute, il pense, le petit chat est mort. Pourquoi cette phrase lui passe dans la tête à ce moment-là? Il ne se souvient même pas de l'avoir entendu. Pourquoi un petit chat et pourquoi est-il mort? D'où vient cette phrase qu'il murmure maintenant au milieu des images qui lui bousculent la tête? Il entend d'autres phrases maintenant. « Mets ton écharpe, regarde en traversant. Mon Dieu, est-ce bête, qu'est-ce qu'on fait là ?» Ça vient comme ça. Ça se bouscule dans sa tête. Comme si des paroles le rejoignaient sans qu'il ne fasse rien pour les rappeler. Des paroles qui lui viennent au milieu de la forêt, des paroles de rien, des paroles sans intérêt, mais qui sont là souvent et prennent toute la place. Le vent secoue les branches et les paroles alors disparaissent. L'ogre se relève, il a les fesses glacées et besoin de marcher.
Il se met en route et passe près de Sa Majesté en baissant légèrement la tête avant de s'enfoncer dans les taillis. Des baies, des fruits rouges éclatent dans un jus sanglant sous ses pas. La nuit, il ira vers les maisons ramasser ce qui traîne et s'approvisionner. Maintenant, il va retourner vers la cabane et la consolider. Le temps de la cabane est toujours plus long que prévu. Et quand la cabane n'est pas assez solide, il ne reste que les buissons qui sont la première forme des cabanes. Et des buissons sont toujours nécessaires à l'ogre qui se cache. Tous les rêves ont une fin. Et ne servent qu'à supporter le jour qui va si bête dans l'ordre des apparences. L'ogre va se réveiller, c'est certain, et se lever aussi, pour chasser cet ennui qui vous prend le matin. Parfois, par tant de chagrin, il tremble, il s'ébroue, il remue, il ouvre les yeux. Le ciel au-dessus est plus large qu'hier. Il y reconnaît quelques traces de la nuit où il se sent bien. Des vallées de nuages où coulent des torrents bleutés. D'un coup, une ombre. Tandis qu'il partage ses mélancolies avec le souffle des arbres, les Inuks sont passés derrière lui. Dans un fourré, il en est sûr. Il les a aperçus bas, rapides, une longue queue balayant le sol. L'ogre est sur ses gardes. Il attend étendu à propos des Inuks et de leurs terribles crocs. La peur s'approche de lui, lui touche l'épaule, le saisit et le secoue. L'ogre tremble, mais il doit faire front. Alors il sort son canif, prend une branche sur le sol et la casse pour la rendre plus effilée. Il va devoir affronter son premier Inuk. La gorge sèche, il recule, se met dos à un arbre large et rassurant. Il attend, les broussailles bougent. Un oiseau bat des ailes en chemin de pipi, lance des cris d'angoisse et de douleur. L'ogre a échappé deux fois, une fois encore, au terrible Inuk. L'ogre se laisse glisser le long du tronc et dépose canif et branche en tendant ses mains ouvertes vers l'oiseau qui tente de s'envoler, mais une aile est brisée. L'ogre prend délicatement l'oiseau dans sa main
en rabattant lentement les ailes. Le long de son corps, où bat le cœur panique de l'animal. L'ogre va soigner l'oiseau. C'est la première chose à faire, mais l'ogre ne sait que faire. Tant pis, il apprendra. Il serre l'oiseau contre lui, se souvient qu'un de ses instituteurs passionnés de colombophilie avait un jour dit en classe que pour les Grecs anciens, seuls les dieux et les oiseaux pouvaient aller dans des lieux que ne pouvaient atteindre les hommes. Et il avait ajouté que cet oiseau était aussi la dernière trace des dinosaures. Ben ouais. L'ogre avait un dinosaure à lui. L'ogre caresse l'oiseau et tous ces mots qu'il a en tête font de ce moment une expérience qu'il n'a jamais connue. Il pense à la mort pour la première fois. Vraiment. À la sienne. Il n'est pas inquiet. Il emporte l'oiseau vers la cabane. La forêt amplifie ses sentiments et les mots de l'ogre saillira. Tu verras, je vais te soigner. J'ai vu comment faire dans les films, à l'école, à l'infirmerie. Je vais te soigner, attends, attends. Dans la campagne enfin, vers laquelle il a couru en tenant l'oiseau serré contre sa poitrine. Oiseau gémissant, ogre haletant. Dans la cabane, sur la couche de feuilles, il dépose doucement l'oiseau fébrile. Déchire sa chemise et lave la plaie de l'aile avec l'eau de sa gourde. Puis il enveloppe l'aile blessée avec un morceau de tissu qu'il serre fort pour que l'oiseau ne puisse plus s'envoler le temps que l'aile guérisse. Un grand souffle dans la forêt, une respiration comme une, un halètement qui se dépose après l'attente et la douleur. L'ogre a fait ce qu'il fallait. L'oiseau dort, respire calmement. Il reprend des forces. Il devra manger bientôt. Une forme encore apparaît comme la dernière fois, une forme lente qui se met en place et prend dans des élans de rapace pour passer d'une branche à l'autre. À chaque bond, elle se nourrit de feuillages traversés. Elle enfle, elle s'organise, elle se structure. La voici presque achevée. Elle se dresse devant l'ogre et l'ogre se reconnaît. Ce sont ses traits, ceux de l'homme qu'il sera, jeune et fort. Le regard clair. La forme se penche vers lui et lui souffle quelques phrases, quelques mots qu'il répète, quelques secrets peut-être que seul l'ogre peut entendre. Il sait maintenant qu'il vivra jusqu'à sa jeunesse et plus, encore plus, qu'il sera peut-être heureux de courts moments, joyeux de long. Mais quand, comment, avec qui, l'ogre ne nous en dira rien. La nuit n'est jamais complètement finie. Les voix et les formes sont des cadeaux de la nuit. L'ogre vient de l'apprendre. Certains. Ils peuvent enfin soigner, consoler et déporter, recoudre. C'est terrible. C'est terrible, se dit l'ogre. Je suis un monstre. Mais il ne parvient pas à le croire. La guerre serait bonne pour ça? Rien que pour ça. Pour la première fois, enfin, l'ogre pense. Pourvu que la bombe ne tombe pas. Crac ! Coup de tonnerre. Et la chaleur lui colle au visage, une bouffée de chaleur, un bruit terrible, des éclairs. La bombe, ça y est, se dit l'ogre, et se met à courir en grandes enjambées vers sa cabane. Si la bombe tombe sur la forêt, il veut être dans sa cabane au moment de la grande lumière. La pluie tombe sur son visage et nettoie les salissures de la course, une bosse scintille sur son front. Il se réveille vite et se traîne sous les branches. C'était pas la bombe, mais un orage. Et très vite, tout est calme. Les oiseaux se remettent à chanter, des millions de gouttes d'eau tombent sur les feuilles et les matières en faisant des sons qui se transforment vite en musique végétale. L'ogre est encore groggy. Il se met lentement debout. Il vient de prendre une décision. Il rentre. Il en a assez appris que pour pouvoir rentrer chez lui. Il prend le chemin du retour. Il marche vers la cabane. Respire profondément et se gonfle de ses dernières heures dans la solitude de son aventure. Il ne détruit pas la cabane. Elle pourra servir à un autre et à un autre peut-être. Il laisse les quelques outils qu'il avait emporté, son couteau. Il ne garde que la gourde pour le retour. Il met quelques affaires dans un sac et prend la direction de la maison. Au bout de la forêt. Quelques mètres plus loin, il regarde une dernière fois la cabane, ferme les yeux, grave l'image en lui et reprend son chemin. Il se dirige vers l'étang. Où il pourra se laver et s'habiller pour rejoindre les hommes. L'étang a gonflé sous les torrents d'eau tombés pendant l'orage et l'ogre y pénètre lentement. Il sent des masses de boue se détacher de sa peau. Il voit l'eau tout autour de lui se brouiller de son image. Plonge la tête dans le sombre liquide et réapparaît, débarrassé de toute salissure. Il se sèche aux herbes et aux feuillages. s'habille lentement et reprend sa marche vers la maison. Quand il franchira la frontière des secrets et rejoindra le monde qu'il voulait tant quitter, il saura tenir bon, éviter les Inuits, écouter les formes qui viendront vers lui pour lui raconter à l'oreille des versions de l'avenir. Il se sent fort maintenant.
Ce n'est pas nécessairement la favorite de la nature, que l'humanité peut très bien disparaître. Que nous
il est presque chez lui. Il est presque chez lui. Il est presque chez lui. Il entend le bruit de la ville, aperçoit sa maison, rassurera ses parents, racontera mille histoires qui ne seront jamais les mêmes. Et ça durera longtemps, 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 longtemps. Et ça durera longtemps.
C'est pour ça que je suis très excité. Que je ne m'en sors pas avec mes...
Moi aussi.
Avec mes câbles. C'est un poème de Daniel que j'ai mis en musique et qui est en lien avec l'autobiographie rêvée, justement.
Autobiographie rêvée, c'est un conte, comme vous l'avez entendu, l'ordre des cabanes, suivi d'une petite...
Il y a des trucs partout ici. Il y a des trucs partout, mais il n'y a rien qui marche.
Oui. Autobiographie rêvée, vous pensez bien que je ne suis pas devenu un vieux monsieur qui pense soudain qu'il est temps d'écrire pour ses enfants naturels. Non, pas du tout. Ceux-là, je les ai noyés. Sinon, on s'attache, madame. Il faut le faire tout de suite. Mais les cabanes, c'est quand même une grande histoire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a plusieurs écrivains, non des moindres, Ernst Jünger, qui a écrit la théorie du rebelle, et c'est entre autres, il faut toujours qu'à une époque dangereuse, on puisse avoir recours aux forêts, qu'elle soit la forêt ou autre chose. En tout cas, quelque chose où on se retire et où le combat continue. Et puis l'autre, c'est une petite histoire que j'aime beaucoup, parce que j'écris souvent des petites histoires que j'aime beaucoup quand elles sont cruelles, un petit peu comme les gens que j'aime bien. Mais ça s'appelle les fleurs en papier crépon. Il y en a ici que je vois qui sont à l'âge des papiers crépons et des bikinis en laine tricotée. C'est moins sexy avant qu'aujourd'hui, hein. Voilà, c'est tout. Mais c'est la première partie. Merci beaucoup de votre écoute.
Ce n'est pas rien, ce temps passé, on ne sait où. Peut-être sur les mains, enluminure des caresses, cartes et portulans intimes, hors d'Alice sans merci, d'un tournoi sans témoin. Ce n'est pas rien de réchauffer les cœurs gelés des hommes encore. Ne pas se soustraire à ce qui vient vers nous et qui n'est déjà plus. Le soir retient l'aube en otage. Et nous ouvrons des livres de toute race. Nous lisons en alerte pendant le grand combat. La nuit recule enfin, elle perd du terrain que le jour ne consolide jamais, ne console jamais.
Merci.
Texte de Daniel.